Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce, la paix de notre Dieu le Père et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, soit sur nous. Voilà, les frères, il nous a beaucoup parlé de cette Pentecôte. Il a même trop parlé. Il a tout expliqué, quoi. Mais la Pentecôte, vous savez que c'est le 50e jour. Pentecôte, ça signifie 50 jours après la résurrection. Comme il a lu les frères, c'est la promesse que Jésus il avait fait. Je m'en vais, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans Acte 2, et c'est la naissance de l'Église. Les apôtres, avec cette puissance, ils étaient enfermés dans la chambre haute, et dès que l'Esprit est descendu sur eux, ils ont ouvert la porte. Toute peur passée, ils sont sortis et ils ont annoncé la parole de Dieu. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de la Pentecôte. Donc, ce qu'il a dit le frère, c'est bien, pour que nous puissions le savoir. Des fois, on prie Dieu en disant, et Dieu, il fait tout pour notre bonheur, n'est-ce pas? Combien de fois vous avez entendu ça? Et dans cette semaine, dans mes études, j'ai découvert que Dieu se soucie pas spécialement de nous rendre heureux, de nous donner le bonheur, mais de nous rendre saints. Car il nous est dit dans la parole, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, on fête la naissance de l'Église, c'est quelque chose de merveilleux, parce que nous appartenons à l'Église. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Seigneur Jésus-Christ, et comme il nous l'a bien dit, dès que nous acceptons Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il prend possession de notre vie et nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à attendre d'autres manifestations. La manifestation, c'est ça. Moïse il nous a dit, nous avons tous été baptisés d'un seul et même esprit. C'est lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus. Et l'Église, c'est le peuple de Dieu. Mais je vais vous parler, pas de l'Église, comme je vous ai dit, mais de la façon dont nous devons nous conduire dans l'Église. Premièrement, si on est dans l'Église, c'est avec nos frères et sœurs. Et ensuite, automatiquement, nous devons manifester toutes ces choses-là à l'extérieur de l'Église. Et Dieu, il a donné les 10 commandements. On appelle ça la loi morale. Si je demande à quelqu'un, qui sait me répéter les 10 commandements? Est-ce qu'il y aura quelqu'un? Non, on saute toujours. Bon, il y a la loi morale, je ne vais pas la répéter non plus. Mais je vais vous donner ce matin la loi, les commandements de la communion fraternelle. Il y a des commandements que le Seigneur il nous a donnés pour que son Église il puisse avancer et que son Église puisse être un témoignage dans les endroits où le Seigneur il l'a placé. Il y a des commandements et nous devons les observer, toutes ces choses-là. Tout à l'heure, les sœurs, ils ont chanté. Et ils ont dit à un certain moment, Alléluia. Ça veut dire quoi, Alléluia? Il y en a un seul qui parle. Alléluia, ça veut dire loué soit le Seigneur. Loué soit Jah. C'est le nom qu'on donnait au Seigneur, n'est-ce pas? Mais ce matin, je vais vous parler d'un autre mot qui est dans la langue grecque. Et ce mot-là, c'est ce qu'il a fait avancer ses commandements. Ce mot grec, c'est « allélon ». Quelqu'un sait ce que ça signifie? Non, bien sûr. Alors, « allélon », c'est du grec, et ça veut dire « les uns les autres ». Les uns pour les autres. D'ailleurs, le Seigneur, il nous l'a dit dans Jean 13, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et nous allons voir tous les endroits, pas tous les endroits, mais dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, on va voir les endroits où ces commandements de la communauté fraternelle que nous sommes dans l'Église, que nous devons absolument observer pour que la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu soient sur nous. Et que cette bénédiction, nous puissions la répandre autour de nous. Vous savez, la loi morale, les 10 commandements, les 4 premiers, c'est à l'honneur de Dieu. Et le restant, ils sont tous envers les prochains, envers nous-mêmes, envers les prochains. Et ici, au chapitre 12, on voit la direction de ce mot « allélon ». Je suis sûr qu'après l'avoir lu, il y en a 10. Je vais être un peu long, mais je vais essayer de compresser. Je vous demande, c'est de garder ce mot « allélon ». Qu'est-ce que ça veut dire « les uns les autres »,« les uns pour les autres ». Il y avait, en préparant cela, pourquoi j'ai préparé ça? Parce que à la radio, j'ai entendu une chanson, c'était la Starmania. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était un groupe qui chantait, et voilà ce qu'il disait. On danse les uns contre les autres, on court les uns après les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte, on s'en rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Et c'est exactement le contraire de ces 10 commandements que nous avons dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Et nous allons le voir, et c'est le mot « allélon », les uns pour les autres, les uns aux autres. Romains, chapitre 12. On va lire le premier commandement. Il se trouve dans le verset 9 et le verset 10, la première partie. 9 et première partie du verset 10. Pierre, je suis sous l'acte, donc je ne trouverai jamais... Romains 12, le voilà. Quel amour soit sans hypocrisie, ayez les mâles en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Allélon. Ici, les premiers commandements, c'est s'aimer les uns les autres. S'aimer, pas les mots aimer qu'il utilise le monde, mais les mots agapé. Le même amour. Le Seigneur, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et ici, c'est un amour sincère. Et pas dire « je t'aime, mon frère » dès qu'il a tourné le dos. Ah, celui-là, Un amour sincère, un amour sincère. Pas de vacherie dans le dos. Pas de vacherie dans le dos. Des paroles derrière. La langue. Jacques, il nous le dit bien. C'est un petit membre, mais personne n'est arrivé à le dompter. Voilà pourquoi. Et d'un amour affectueux. Affectueux. Un peu le même amour qu'on pratique dans nos familles, envers nos enfants. Le Seigneur, il a dit, j'ai donné la vie pour vous. Nous devons même aller jusqu'à donner notre vie pour les frères et sœurs. Voilà les premiers commandements. Amour, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on appartient à un corps. Et Paul nous le dit, lorsque quelqu'un est content, nous sommes contents. Lorsque quelqu'un souffre, nous devons souffrir avec pour le consoler, pour alléger ses souffrances, pour voir qu'il n'est pas tout seul. Et c'est ça que le Seigneur, il nous dit, un amour affectueux. Hein? Dans le grec, c'est philostrogos, c'est-à-dire l'amour filial. Aimer le frère, la sœur, comme si c'est mon fils, ma fille, d'un amour, le même amour que le Seigneur, il a eu pour chacun de nous. Ça, c'est le premier commandement et le plus important. Un peu comme tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton... Voilà, tu aimeras. Ici, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Deuxième commandement, dans la deuxième partie du verset 10, il dit, la fiction, par honneur, usez des prévenances réciproques. Ici, c'est de nous honorer les uns les autres. Il est marqué « Honore ton père et ta mère ». Mais ici, le deuxième commandement pour nous, c'est d'honorer notre sœur, d'honorer notre frère. Nous devons tout y mettre pour que notre frère ou notre sœur puisse se trouver à l'aise avec nous. Comme il a dit le frère, dans l'Église, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni noir, ni blanc, ni rouge. On est tous dans le salut. Nous devons tous nous regarder en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit, nous devons nous honorer les uns les autres. Réciproque, c'est ça. C'est Allélon, mais c'est les uns les autres. Troisième commandement, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voilà, servez le Seigneur, le troisième commandement, les uns avec les autres. Il n'y a pas de chrétiens isolés. Dans les études bibliques ou dans toutes les autres choses, « Ah, moi, je vais étudier tout seul. » Ça n'existe pas. Il faut être ensemble. Parce que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, l'Esprit, il me parle d'une façon. Et à ma sœur, il lui parle d'une autre façon, mais qu'il regroupe le même enseignement en mettant les choses ensemble, nous sommes enrichis. Et il nous a dit, servez le Seigneur, avoir du zèle. Ça veut dire, c'est quelque chose comme lorsqu'il arrive l'heure de manger. C'est midi, hein, je dois aller à manger. Mais ici, il dit, servez le Seigneur avec zèle. Nous ne devons pas laisser passer un seul moment dans lequel on peut partager notre foi, comme l'a dit le frère. Servir le Seigneur avec zèle, les saints avec les autres. L'Église doit être la chaudière. C'est, vous savez, on a des chaudières à la maison, pour ceux qui n'en ont, hein, ou sinon pour se réchauffer, il faut l'allumer. Et l'Église, c'est pas... Si l'Église, elle est ensemble, elle est chaude, elle a du zèle pour le Seigneur, elle nous dit, servez le Seigneur avec le zèle. Mais l'Église, elle va avancer. Parce qu'on dit, on va évangéliser, on va distribuer. Il ne faut pas qu'il y ait que les conseils, ou que les pasteurs, ou qu'une ou deux personnes. Lorsqu'il y a ces choses-là à faire, il faut que cette chaudière soit là. Le zèle. Jésus-Christ, il avait dit, les zèles de ta maison me dévorent. Pourquoi? Parce qu'il n'avait qu'une seule pensée, c'est donner gloire à Dieu. Servir avec les uns les autres, ensemble, en chrétien, isolé, ça n'existe pas. Nous sommes tous sous ce Saint-Esprit qu'il est venu, il a allumé un feu, et nous sommes tous dedans. Si il y a un chrétien qui se met à l'extérieur, en dehors de ces feux, il fait quoi? Une braise lorsqu'on le retire du feu? Il s'éteint. Mais si on est ensemble, si on se trouve dans le même endroit où cet esprit, il travaille, alors là, on avance. L'Église, c'est la chaudière. Et encore une fois, ici, c'est le mot « allélon ». les uns avec les autres, pas seul. Un chrétien seul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'Église, c'est le corps entier. Et nous devons avancer ensemble, avec zèle. Le quatrième commandement, au verset 12, première partie. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Quelle est notre espérance? C'est que le Seigneur revient. Bientôt. Il nous l'a promis, c'est encore une promesse. Et il nous dit, réjouissez-vous en espérance. En attendant ces jours, nous devons nous réjouir. Même si nous sommes dans la tristesse, nous devons être dans la joie. Nous devons nous réjouir. Mais comment? Les uns avec les autres. Et les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que nous avons en nous cette espérance qui nous fait vivre. D'ailleurs, vous savez, au tribunal de Christ, il y a une récompense pour tous ceux qui vivent de cette espérance. Et si chacun de nous, il avait cette espérance constamment au plus profond de lui-même, nous ne tomberions pas dans toutes ces tentations, dans le péché. Parce qu'on se poserait tout de suite la question, mais si j'ai fait ce péché, le Seigneur revient. Donc, voilà pourquoi il dit, réjouissez-vous, partageons notre espérance, témoignons, évangélisons, parce que nous avons été sauvés pour cela. Je vous le répète assez souvent cela. Si le Seigneur il nous a sauvés, ce n'est pas parce que je suis beau ou je ne sais pas quoi, ou parce que j'ai fait des grandes choses. Il m'a sauvé parce que Jésus-Christ, il a tout fait pour moi. Et à sa place, aujourd'hui, l'Église, nous qui appartenons à l'Église, nous sommes, encore une fois, je vous le répète assez souvent, nous sommes les pieds, la main et la bouche de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de prédicateur, comment les autres ils entendront parler de Jésus-Christ? C'est notre devoir, il nous a sauvés pour cela, et c'est nous qui nous devons nous réjouir de cette espérance et partager tout autour de nous cette espérance. Et ça, ce n'est pas dire oh, si tu veux, c'est un commandement. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. C'est pas quelque chose qu'on peut ou ne pas faire. C'est un ordre. Voilà pourquoi il est parmi les commandements de l'amour, de la communauté fraternelle que nous sommes. Et bien sûr, cet amour, cette espérance, nous devons la répandre autour de nous. J'étais dans une famille chrétienne hier soir, et cette famille, ils sont tous croyants, ils sont tous chrétiens, et ils n'arrêtaient pas de dire, je suis béni dans le Seigneur. Je vais au travail et je partage cela. Je vais dans le métro, je vais à faire des achats et je partage cette joie que j'ai dans le Seigneur. C'est une famille de 5 membres, mais tous ils disaient la même chose. Et ils disaient, ils affirmaient, nous sommes bénis. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils se réjouissaient les uns les autres. Il disait, hey, maman, on est béni. Hein? Et la fille, oui, 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 maman, on est béni. Même au travail, je suis béni. Et l'autre, oui, j'ai fait ça et j'ai reçu la bénédiction. Voilà, il partage tout ça parce que c'est un commandement. Dieu, il bénit ce qui lui appartient. Dieu, il veut nous donner la sanctification. Car sans cela, d'ailleurs, il y a des gens qui sont heureux, qui sont dans le bonheur, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces gens-là, ils verront le Seigneur? Ben non. C'est ce que Dieu veut nous donner, c'est la sanctification. Car si nous avons la sanctification, automatiquement, tout va suivre. Tout va suivre. Le sixième commandement, Allélon, dans la deuxième partie du chapitre, du verset 12. Soyez patients. Dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérez et priez les uns pour les autres. Soyez patients. Un chrétien qui ne prie pas, ça n'existe pas. On l'a vu vendredi dans notre étude des prières. Hein? La prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, il ne respire pas, il ne vit pas automatiquement la vie de Christ. Bien sûr, c'est difficile dans nos prières. Et on a vu vendredi, justement, que lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, des fois, le Seigneur, il nous répond immédiatement. Hein, Daniel, il n'avait même pas dit la chose que l'ange Gabriel, il est venu et lui a expliqué. Et ainsi, on a vu ça dans Ésaïe. Immédiatement, le Seigneur, il écoute les prières de ses enfants et il répond immédiatement. Mais d'autres fois, on a vu qu'il répond en retardement. Hein? Il ne répond pas. Il répond en retard. Oui, le Seigneur ne m'écoute pas. Ne me répond pas. Mais le Seigneur, il écoute et il répond. Mais il répond à son temps. À son temps. Et on a vu aussi, troisième, c'est que le Seigneur, parfois, hein, il répond différemment de ce que nous demandons. Hein, ça ne vous est pas arrivé de demander quelque chose et vous ne l'avez pas, mais derrière, hein, vous avez autre chose. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il sait toutes ces choses-là. Et parfois, encore, on a vu le quatrième, c'est que le Seigneur, il répond et il nous donne au-delà de ce que nous avons demandé. Au-delà de ce que nous avons demandé. Ça, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il nous dit « persévérez à prier les uns pour les autres ». Persévérez de prier les uns pour les autres. Allélon, les uns pour les autres. C'est un partage. Un partage dans l'Église. Hein? Ce n'est pas l'anarchie. Bien sûr, en dehors de l'anarchie, il y a ce qui est à toi, il y a à moi. Ce qui est à moi, il est à moi. Hein? Et on l'a vu dans les églises, que des gens, il y avait des gens qui étaient dans le besoin, et le Seigneur a touché leur cœur, et ils vendaient leurs propriétés, et ils les donnaient aux apôtres pour qu'ils soient mis à la disposition. Pourquoi ? Parce qu'on est un. Et nous devons prier les uns pour les autres. Paul, il nous le dit, il n'arrête pas de nous le dire. Prier les uns pour les autres. Pas pour toi-même. Normalement, on ne doit pas prier pour nous. On doit aller vers Marie et dire, Marie, prie pour moi, j'ai besoin de ces besoins. Et Marie va l'autre, tiens, prie pour moi, j'ai besoin. On ne doit pas prier, Seigneur, oui, voilà, viens, interviens. Non, il faut qu'on soit unis et qu'on soit ensemble. C'est l'autre qui doit prier pour moi. Et moi, je dois prier pour l'autre. Voilà pourquoi il nous donne ces commandements, le Seigneur. Soyez patients dans la prière et dans les épreuves aussi. Des fois, lorsqu'on se trouve dans les épreuves, le Seigneur il nous dit d'être patient et nous devons être auprès de notre frère, notre sœur, la soutenir dans ses épreuves. Mais il faut être patient. Mais Jacques il nous l'a dit, le Seigneur il n'a jamais donné une épreuve au-delà de ce que nous pouvons supporter. À un certain moment, le Seigneur il va intervenir. Voilà pourquoi il dit « persévérez à prier les uns pour les autres ». Et dans le verset 13, encore un autre commandement, la première partie, « pourvoyez aux besoins des saints ». Ici, ces commandements, c'est « soyons généreux ». Soyons généreux les uns les autres. L'argent, c'est une source de querelle. Il y a eu des familles qui se sont déchirées. Et il y a eu des églises qui se sont déchirées. Et le Seigneur, il nous le dit, hein, l'argent, il dit, l'argent est à moi. L'argent est à moi. Nous ne devons pas nous réfugier avec ces dieux, le mammon, l'argent, mais que sur Dieu. Nous avons un besoin et nous devons nous tourner vers le Seigneur. Le Seigneur est généreux avec nous. Est-il généreux, le Seigneur, avec vous, avec nous? Ah oui. Si vous êtes ici, c'est la générosité de Dieu. Hein? Et nous devons être généreux avec nos frères et sœurs et généreux avec Dieu lui-même. Vous savez, à un certain moment, dans les églises, dans le peuple d'Israël, il est marqué, il n'y avait pas de gens qui étaient dans le besoin. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait institué quelque chose où tous, ils prenaient part. Et tous, ils avaient quelque chose. Parce que ce que nous donnons à Dieu, Dieu, il nous le rend. Voilà pourquoi il dit, soyez généreux, généreux. Quelqu'un, il a dit, moi j'aime bien lorsqu'on me donne. Oui, bien sûr. Mais Jésus, il dit le contraire. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. D'ailleurs, toute la joie de Jésus, c'est ça, à donner. Il a donné sa vie. Qu'est-ce que nous lui avons donné à Jésus? Rien du tout. Mais lui, il a eu la joie de donner. Et maintenant, il se réjouit de ce qu'il a donné. Parce qu'il voit des gens qui s'approchent de Jésus. Et pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Moi, personnellement, je me suis approché de Jésus parce qu'il a donné sa vie pour moi. Je dis, comment un Dieu si grand a pu penser à moi? Il a donné sa vie pour moi, qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais rien mérité. Et pourtant, il l'a fait. Donc, Jésus, Dieu, il m'a donné toutes les richesses que vous avez, si vous en avez. Hein? Mais si vous avez des richesses, c'est Dieu qui vous les a données. Ah, je les ai gagnées avec mon travail. Insensé. Dieu, il a dit, insensé. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'a donné. Ah, j'ai travaillé. Mais oui, mais la santé pour travailler, qui te l'a donné? Voilà pourquoi il nous demande d'être généreux. Premièrement, avec les frères et sœurs. Si seulement nous pouvions mettre de côté notre orgueil, connaître la situation des gens, sans craindre de dire, bon, voilà, mes frères et sœurs, je suis dans les besoins. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on est derrière. Regarde Jean-Pierre, il a besoin d'argent, il n'a pas mangé. Tu te rends compte? C'est ça qui nous manque. L'orgueil, on est là. C'est pour ça que, sinon, en tant qu'Église, nous devrions pourvoir à l'élan les uns pour les autres. J'ai un morceau de pain, quelqu'un qui n'a pas, il faut le donner. Mais pour cela, il faut connaître les frères et sœurs. Et pas avoir peur d'être dénigré derrière. Et c'est ça que le Seigneur il nous dit, soyez généreux. Hein? Et vous savez, c'est quelque chose que le Seigneur a toujours fait, hein? Tout ce qu'il avait, il nous l'a donné. Hein? Si j'ai du superflu, hein, il peut servir à celui qui en manque. Et c'est si bon de voir un frère, une sœur dans la joie, qu'il a besoin de rien. L'Église, il est là. On est là pour cela. Mais nous ne le faisons pas. Parce que nous sommes mauvais. Imaginez-vous les chrétiens avant Jacques, il nous le dit, confessez les péchés les uns les autres. Oh là là. Imaginez-vous si on faisait ça aujourd'hui. Et pourtant, c'est les uns les autres qui comptent. Ensemble, nous avançons. C'est pour ça que l'Église, elle a été formée. Il a dit, je bâtirai mon Église. C'est quelque chose que c'est le Seigneur qui a bâti. Il n'existait pas l'Église avant Jésus-Christ. Il a donné sa vie et ensuite il a bâti cette Église. Mais il nous connaissait, il sait que nous ne serions pas capables. Et alors il a dit, je m'en vais, mais je vais vous donner un autre consolateur. Attendez ici, dans cette ville, je vais vous envoyer la puissance. Et nous avons cette puissance. Paul, il nous l'a dit, hein. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de peur, mais un esprit de puissance. Il faut déclarer, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des simples personnes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous représentons les dieux tout-puissants. Nous sommes à son service. C'est ça que le Seigneur il nous dit. Tout est à notre portée. Hein? Il dit, petits enfants, dans Jean 3, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. On sait que quelqu'un est dans le besoin. Ah, mon frère, tu vas voir, Dieu, il va pourvoir pour toi. Hein? tandis que tu sais que tu peux intervenir. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. Le vrai amour, c'est celui qui se met en action. Et il nous a dit aussi, dans Jacques, il nous a dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'eux vous le dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Le Seigneur, il a vu notre état de misère. Et il est venu ici, il nous l'a enlevé, cette misère. Et il nous a couvert de sa justice. Voilà pourquoi il nous donne tous ses commandements. Mais au verset 13, regardez la deuxième partie. Il dit exercez l'hospitalité. Soyez généreux envers l'étranger. Envers les frères et sœurs, comment? Un sourire, un salut, une invitation, une présentation à d'autres chrétiens, une invitation. Voilà, généreux. Le Seigneur, il est venu vers nous. Il a été généreux, il a tout donné. Et même, il nous a déclaré que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers des dieux. Mais avez-vous pensé à cela? Je ne sais pas si vous réfléchissez à cela des fois. Des héritiers des dieux. Et vous savez, Dieu, c'est à lui l'argent. Il lui appartient tout. Et nous allons hériter de tout cela. Alors, soyons généreux avec nos richesses injustes que nous avons envers l'étranger. Ceux qui ont besoin, encore une fois, premièrement dans l'Église et ensuite à l'extérieur de l'Église. Parce que nous sommes une famille. Et ça arrive la même chose dans nos familles, n'est-ce pas? Si mon fils ou ma fille a la faim, je lui donne un morceau de pain. Et c'est ça. Nous sommes la famille des dieux. Hein? Soyez aussi, le verset 15 et 16, regardez. Huitième commandement. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà, ici, ces commandements, c'est soyons à la même longueur que nos frères et sœurs. C'est ce qu'il nous demande ici, les uns avec les autres. L'assemblée, encore une fois, l'Église, c'est un corps. Et pas dire j'ai plus de connaissances que Roland, je suis plus vu que Marlène, voilà. Tout ça à la main. Mais au contraire, il nous dit, soyez humbles. Mettez les frères et les sœurs plus haut que vous. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il était Dieu et il nous a dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être considéré comme Dieu. Il est venu ici en tant que serviteur. Je suis venu pas pour être servi, mais pour servir. Et pourtant, c'était le Seigneur. C'est ça l'humilité. C'est ça de se regarder les uns, les autres, comme plus haut que soi-même. Et c'est ça que le Seigneur il nous demande. C'est ça que lui, il a fait. Et nous devons mettre cela en pratique. Hein? Les églises ont besoin d'un ministère d'encouragement. Des fois, on voit des frères et sœurs qui sont découragés, s'approcher et lui donner des encouragements. Parce que qui ne s'est pas trouvé dans un moment de découragement? Tous, on est là. Mais nous sommes là les uns pour les autres. Et nous les voyons cela. Nous les voyons cela. Et nous devons intervenir. Hein? Et les églises ont besoin de ce ministère. Il y a ici quelqu'un qui a ce don. Je ne sais pas s'il le sait, hein, mais chaque fois qu'il voit quelqu'un qu'il est ou dans la tristesse ou il n'a pas, comme on dit, la joie, il s'approche et il lui donne un verset biblique, il lui parle avec douceur. Voilà, c'est quelque chose qui rafraîchit. Soyez sur la même longueur avec les autres. Encouragez. Vous savez, dans la Bible, il y a trois mots là pour cet encouragement. Premièrement, c'est pousser les frères à aller à l'avant. Quand on voit que quelqu'un ne veut pas, lui dire, mais voilà, avance, avance, bientôt le Seigneur, il va venir. Les pousser presque. Et il y a aussi relever les frères qui sont tombés ou abattus. Parce qu'on voit quand, lorsque quelqu'un il est abattu ou il est par terre ou il n'a plus de courage, on est là pour le relever. Hein? Il nous est dit que lorsque un juste il tombe, il y a les frères et sœurs pour le relever. Parce que s'il n'y a pas les frères et sœurs, qui voulez-vous qui le relève? Personne. Voilà pourquoi c'est un commandement. Et troisièmement, c'est consoler les frères qui sont accablés. C'est ça, d'être sur la même longueur d'onde. Le Seigneur, il nous a mis sur une position dans cette église, et lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas à la même hauteur que moi, il faut l'attendre, le consoler, l'exhorter. Il faut même s'arrêter et même pas se dire « Oh, mais si elle ne veut pas avancer, moi j'avance. » Non, il faut t'arrêter, la prendre par la main, l'exhorter, l'encourager, parce que c'est ton frère, c'est ta sœur. Et dans la famille de Dieu, on doit tous avancer au même pas. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. C'est ce mot « allélon », c'est quelque chose de très important. Et au verset 16, regardez ce qu'il dit. « Ayez le même sentiment les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Soyons humbles les uns avec les autres. Acceptez de passer un second, pas être toujours au premier. Hein? Reconnaître qu'on a besoin de l'autre, même si on sait qu'il n'est pas à la même hauteur que toi. Mais voilà, tu vas le voir et dire, j'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur. Viens avec moi. Un peu ce qu'il avait dit, celui qui avait été guéri, il a dit, non, c'est Moïse qui l'avait dit à son beau-père, une fois qu'ils étaient presque pour entrer dans le pays, il lui a dit, viens avec nous, car le Seigneur, il nous a fait du bien, il va nous faire du bien. C'est comme ça, les uns avec les autres, lorsqu'on peut lui apporter quelque chose, s'approcher. C'est l'amour, les uns pour les autres. Et au verset 14, regardez ce qu'il dit. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Pourquoi la prédication de Jésus a été si forte? Parce qu'il disait, bénissez vos ennemis. Tout le monde, il disait, écrasez les ennemis, jetez-les dehors. Lui, non, bénissez vos ennemis. Et aussi, on voit au verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Hein? S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est le dixième commandement. Ne vous vengez pas. Surmontons le mal par le bien. Par le bien. C'est ce qu'il a fait Jésus. Ils l'ont crucifié, ils l'ont flagellé, tout ce qu'ils lui ont fait. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça aurait été moi, je l'aurais enlevé, je l'aurais jeté à je ne sais pas quoi. Mais lui, Jésus, rempli d'amour et de paix pour nous. Jésus n'était pas un simple homme. C'était Dieu fait homme. Et il avait en lui tout l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il nous a été donné tous ses commandements, les uns pour les autres, dans l'Église, et aussi les faire ressortir. Premièrement, de nous aimer les uns les autres. Deuxième, de nous honorer les uns les autres. Troisième, servir le Seigneur les uns avec les autres. Quatrième, se réjouir avec les uns les autres. Cinquième, persévérer à prier les uns pour les autres, car le Seigneur, il va intervenir à un moment donné. Soyons généreux les uns avec les autres. Hein? Soyons généreux envers l'étranger. Soyons sur la même longueur d'onde les uns avec les autres. Ayons les mêmes sentiments, le même Seigneur, la même foi. Voilà, ensemble. Soyons humbles les uns avec les autres. Et dixième, ne nous vengeons pas. Mettons tout entre les mains de Dieu. Dieu, il a dit, à moi la vengeance. Mais nous devons surmonter les mals par les biens. Et il nous a dit aussi, c'est lui qui sait faire les biens et il ne les fait pas, il pêche. Voilà, nous avons tous ces commandements pour mettre en pratique les uns et les autres. Que le Seigneur nous aide à les mettre en pratique, parce que si ces commandements nous ont été donnés, encore une fois, c'est que le Seigneur, il veut nous rendre saints. Car il nous a dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voilà, avant la Sainte Cène, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris part la semaine dernière à la fête de la mer, hein, et tout ce qui a été organisé aussi les samedis avec le club Awana, les jeunes qui se sont. Ça a été deux jours merveilleux. On a vu l'entrain. Voilà, c'est ça, les uns pour les autres. Peut-être ils avaient autre chose à faire. Non, ils se sont préparés pour que les uns et les autres nous puissions profiter de ce bien-être que le Seigneur il nous donne, qu'il donne à son Église. Et nous en avons profité. Et au nom de l'Église, je vous dis merci pour tous ceux qui se sont impliqués en cela. Merci beaucoup.